À la une, le nucléaire avec ce nouveau site internet, véritable Wikipédia du CEP, la péréquation de l'électricité, Mo et Rani Frébo ne lâche pas l'affaire, et de l'astronomie, on terminera la tête dans les étoiles. Le journal de 7h, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Le Wikipédia du fait nucléaire en Polynésie française est en ligne.
Oui, l'université et la Maison des sciences de l'homme du Pacifique ont présenté hier le dictionnaire historique du Centre d'expérimentation du Pacifique. Il est disponible gratuitement sur dictionnaire-cep.upf.pf en français comme en tahitien. Il doit permettre au public et notamment aux jeunes générations d'en apprendre plus sur cette période. Vous y trouverez des notices sur les acteurs, les événements ou les lieux liés au centre d'expérimentation. Le dictionnaire est le fruit de près de 3 ans de réflexion et de travail pour lequel près de 130 entretiens ont été menés à Tahiti dans les îles auprès d'anciens travailleurs et de leurs familles. L'historien Renaud Mels en est le co-directeur.
C'est un ouvrage qui tend un miroir aux Polynésiens de ce qu'ils ont vécu, mais qu'ils n'ont pas vécu passivement, auquel ils ont participé. C'est un ouvrage numérique, donc évolutif, collaboratif, avec des dizaines de scientifiques de plusieurs disciplines qui ont travaillé ensemble et qui continuent à travailler pour écrire ensemble l'histoire du CEP.
Cette part de l'histoire du Fénois et de la France, Renaud Mels, que vous venez d'entendre, ne cesse de la décortiquer. Il sort aussi un autre livre, son deuxième ouvrage sur le sujet, Un deuxième contact, Histoire et mémoire du CEP. Il fait suite à Des bombes en Polynésie, paru en 2022, sur la base de premières archives déclassifiées. Il essaye de répondre à ces mêmes questions. Qui savait quoi? Quels ont été les dispositifs de sécurité sur les risques? Quelles mesures ont été prises? Grâce à la déclassification progressive des archives, le travail de recherche progresse, dit-il. Le chercheur sera demain de 9h à midi à les librairies Climat pour dédicacer son livre et une conférence sur les essais nucléaires. Ce qu'on sait et ce qu'il reste à découvrir est prévu lundi à l'université. Ce sera de 17h30 à 19h.
Moi, Rani Frébo ne lâche pas l'affaire sur la péréquation de l'électricité.
Et vous le savez, ce dispositif permet à tout le monde de payer les mêmes tarifs, peu importe où il se trouve sur le territoire national. Cela permet aux Outre-mer notamment de bénéficier d'un tarif bas alors que la production dans les îles coûte cher. Et le député Frébo a posé la question dans l'enceinte de l'Assemblée nationale pour que la Polynésie française puisse en profiter. Et la ministre déléguée chargée du commerce, Véronique Louwagie, a dit que c'était donnant-donnant. Une réponse qui était mal préparée, selon les mots du député. Pour Mo et Rani Frébo, il est bien sûr hors de question de renoncer à une quelconque compétence. Et c'est ce qu'il a expliqué au ministre des Outre-mer, Manuel Valls, qu'il a rencontré hier.
Le ministre de l'Outre-mer a parfaitement compris cela. Il comprend la perte que ça représenterait en termes d'autonomie pour la Polynésie. Et donc a décidé d'ouvrir le groupe de travail de manière très sérieuse. Je vois déjà dès demain ces techniciens pour qu'on puisse évaluer les modalités réglementaires, le calendrier, le montant éventuel que cela représenterait. Donc enfin, on met vraiment un pas dans la démarche.
Par ailleurs, le député polynésien a profité de ce rendez-vous avec le ministre pour aborder d'autres sujets, celui de sanctuariser l'aide aux étudiants avec une enveloppe pluriannuelle et non plus un versement au coup par coup. Et il a aussi été question de l'obtention de l'IGP pour le rhum polynésien et de la continuité territoriale interne avec une prise en charge par l'État du coût des transports.
Il est 7h03, Tahiti Tourisme et la FAPE font rimer tourisme avec environnement.
Ils ont présenté 2 nouveautés hier. La première, la plateforme HINA, sur laquelle les touristes pourront faire des dons pour des projets environnementaux liés au tourisme durable. Un dispositif qui s'inspire des compensations carbone mises en place par les compagnies aériennes. On écoute le référent tourisme durable, Erwin et Perania.
Il y aura donc 4 projets qui se basent essentiellement sur les piliers tourisme durable, tels que le pilier socio-économique, culturel, environnemental et gestion durable. Donc sur ce site, le touriste va naviguer, sélectionner le projet qui lui parle et faire sa contribution financière via un lien de paiement. Les fonds tombent directement du côté de la FAPE pour le fonds Natura Polynesia.
Et ce fonds Natura Polynesia est un fonds d'investissement qui vient d'être mis en place. C'est la 2e nouveauté présentée hier. Aujourd'hui, Natura Polynesia est principalement alimentée par des sociétés privées, des donateurs qui se sont engagés à faire un don annuel d'au moins 500 000 francs, de l'argent qui servira à financer des projets sélectionnés par un comité et des projets auxquels les touristes pourront donc contribuer, comme l'explique le président de la FAPE, Winnie Kissage.
C'est les touristes qui aujourd'hui sont embêtés à polluer quand ils prennent l'avion. Et qui disent, c'est vrai, je vais jusqu'à Tahiti, je veux découvrir ce pays. Et quand j'habite dans ce pays, ben, j'ai déjà émis beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère. Quand j'arrive ici, comment je fais pour préserver ce pays? C'est au contraire une chance qu'on leur donne de pouvoir le faire. Et les touristes aujourd'hui sont heureux de le faire.
La plateforme HINA n'est pas encore en service, elle le sera dès que le comité de sélection aura choisi les projets. Et d'ailleurs, l'appel est lancé aux associations de la FAPE. Elles ont jusqu'au 28 mars pour déposer leur dossier.
Après le tourisme, un peu d'astronomie avec la SAT.
La société d'astronomie de Tahiti organisait régulièrement des soirées publiques d'observation des étoiles à la Cité de l'Air. 25 ans que ça durait, 500 soirées au cours desquelles au moins 10 000 personnes ont été accueillies. Et sans doute autant de refusés car ces soirées étaient toujours complètes rapidement. Un succès fou. Mais c'est fini, la société d'astronomie de Tahiti a dû quitter ce terrain en juin dernier, il ne lui appartenait pas et il a été vendu. L'association cherche désormais un autre terrain et ambitionne d'aller encore plus loin avec des installations plus importantes. Elle espère construire un observatoire pérenne dans lequel on trouverait des instruments d'observation du ciel et de soleil, de quoi faire de la radioastronomie, un planétarium permanent, une salle d'exposition et une autre pour les conférences. Et elle a de quoi défendre ses ambitions, elle possède le plus gros télescope amateur du Pacifique, elle est le seul observatoire au milieu de l'océan entre l'Australie et le Chili et elle a même été reconnue comme observatoire international. La SAT est donc inscrite sur le site de l'Union Astronomique Internationale numéro 35, une reconnaissance qui lui permet de participer à la recherche internationale, comme l'explique son président Balakrishnan Muniratinam.
C'est notre objectif premier, hein, c'est de participer à des travaux scientifiques, là du coup à échelle internationale, mais par exemple, alors je reprends une photo de transit de Vénus devant le Soleil en 2012. Il y a une photo qui a été publiée, qui a été prise par la SAT et qui a servi à la communauté internationale parce qu'on a pu, grâce à la photo qui a été prise, on pouvait voir l'atmosphère de Vénus. C'est une photo qui était exceptionnelle parce que toutes les autres photos qui ont été prises ne montraient pas ça. Donc c'est un partage avec les amateurs ou les scientifiques du monde entier.
Le matin même de cette interview, le président de la SAT recevait un coup de téléphone d'Ariane Espace qui souhaite implanter des télescopes automatisés en Polynésie française. Et c'est aussi l'Australie qui s'intéresse de près à cette possibilité. Alors pourquoi cet intérêt ? Eh bien pour l'emplacement rêvé de la Polynésie française, un ciel encore clair et préservé de la pollution lumineuse, une couverture importante aussi de l'hémisphère sud et nord. L'association et tous ses bénévoles passionnés espère désormais réussir à convaincre l'État et ou le pays de lui trouver un terrain à la hauteur de ses ambitions.
Et d'ailleurs, il faut lever les yeux vers le ciel en ce moment.
Oui, pour espérer apercevoir une étoile filante. Nous sommes dans la période des Alpha Centauri, ces étoiles filantes qui semblent venir de la constellation du Centaure. Régis Plichard, autre passionné d'astronomie, explique que le pic d'activité se situe entre 21h au sud-sud-est jusqu'à 5h, plutôt vers le sud.
Après les étoiles, les paillettes avec le Wedding Day.
C'est le nom du salon du mariage qui se tient ce week-end à l'intercontinental de Faa. Plus de 20 ans que cet événement existe et il a toujours du succès. Organisé par Retsuyu Events cette année, une vingtaine d'exposants seront présents et un défilé est prévu samedi à 16h.
Et du sport pour terminer avec la préparation de la sélection tahitienne des Tikitoa.
Ils s'entraînent dur pour être prêts pour la prochaine Coupe du Monde en mai aux Seychelles, au programme des matchs amicaux aux Bahamas mi-février. Un mois de camp d'entraînement intensif en mars à Tahiti, suivi de 3 rencontres face à la Suisse en avril, et puis un stage en Arabie Saoudite, un plan bien tracé qui doit les mener le plus loin possible en mai prochain. Les plus jeunes joueurs intégrés récemment pourront ainsi se frotter à la réalité avec les matchs de préparation, des rencontres indispensables pour le coach Teva Zaveroni. Après être allé 2 fois en finale en 2015 et en 2017, les Tikitoa n'ont plus passé l'écart.
Il faut comprendre que c'est pas si facile que ça parce qu'il n'y a pas de championnat régulier de beach soccer. Ils jouent tous au football à 11, cette année en plus le calendrier est particulièrement resserré entre ceux qui font la sélection senior, ceux qui vont partir juste après avec Pirée en Champions League. On n'a pas 1 million de licenciés clairement et donc parfois les joueurs ils participent à de différentes compétitions et donc moi je trouve que depuis 13 ans, 14 ans maintenant de rester au niveau mondial, de se qualifier souvent, de sortir des poules et d'aller au moins un minimum en quart de finale, eh bien du coup c'est quand même un exploit parce que c'est tout petit comme pays Tahiti.
Vous venez d'entendre le directeur financier de la Fédération Tahitienne de Foot, Jean-François Martin. Ils auront donc 4 mois de préparation et plusieurs dizaines de millions de francs investis. Cette année encore, l'équipe dispose de fonds spécifiques accordés, entre autres par la Confédération de football d'Océanie et la FIFA pour se préparer. Et la Coupe du Monde de Beach Soccer, ce sera donc aux Seychelles du 1er au 11 mai. Voilà, c'est la fin de ce journal. Et à noter que nous recevons le président du conseil d'administration de Tahiti Tourisme ce matin. Bud Gilroy sera en direct sur nos antennes et notre page Facebook. Avec lui, nous ferons le point sur le tourisme aujourd'hui en Polynésie, notamment la croisière dont il est un spécialiste, la desserte aérienne, l'offre d'hébergement ou encore la stratégie de communication. Pour maintenir la Polynésie parmi les plus belles destinations, ce sera à 11h30. Et quant à moi, je vous retrouve à 7h30 pour la revue de presse.
Merci beaucoup Lucie, on passe maintenant à la météo sur Radio.